je suis psychologue à la maternité de l'hôpital Necker depuis octobre 1999, mais je travaille en maternité depuis 1980. Hein, et mon travail en maternité à l'âge de mon enfant aîné. Donc c'est comme ça que je m'y retrouve. Et j'ai travaillé 20 ans dans un service de gynécologie obstétrique. Et ici à Necker, ça a quelque chose de plus particulier parce que c'est une maternité de niveau 3 et un centre de diagnostic anténatal et que nous ne faisons pas de gynécologie. C'est-à-dire que nous nous occupons uniquement des femmes enceintes et plus particulièrement des femmes enceintes qui portent un bébé pour lequel il y a une suspicion ou une confirmation d'anomalie. Donc c'est des grossesses qui sont douloureuses, hein, périlleuses, douloureuses pour les deux parents, peut-être encore plus particulièrement pour la mère, mais pour le père aussi. Et donc il y a tout un travail diagnostique et d'accompagnement pour arriver à une mise au monde la plus sereine possible, hein, et à une prise en charge, à un accueil, à une prise en charge du bébé, la meilleure possible au niveau médical, mais pas seulement au niveau médical. Parce que si c'est seulement au niveau médical, ça veut dire qu'on est dans quelque chose d'uniquement technique. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'il s'agit d'un petit enfant et qu'il s'agit d'un événement de la vie dont on souhaite de tout cœur que ça reste un événement heureux. Hein, donc c'est pas toujours facile d'arriver à ce que ça reste un événement heureux. C'est des pathologies qui ont à voir avec les spécialités des autres services de Necker, tout particulièrement les pathologies cardiaques, puisqu'il y a ici un service de cardiologie et de chirurgie cardiaque. Les pathologies viscérales, puisqu'il y a un service de chirurgie viscérale. Les pathologies au niveau rénal aussi, puisqu'il y a de la néphrologie. Les pathologies au niveau neurologique. Les pathologies au niveau ORL. Donc ça veut dire que ces petits bébés-là sont susceptibles d'aller dans tous ces services-là, via d'ailleurs le service de réanimation polyvalente, car l'enfant peut transiter, notamment dans le cas d'une chirurgie viscérale, l'enfant peut transiter par la réanimation. Je pense qu'on est en lien quelquefois un peu plus privilégié avec certains services, hein, où moi je suis en lien un peu plus privilégié avec certaines collègues. Et tout doucement, je pense par rapport au problème de pathologie cardiaque, il y a un lien, moi j'ai un lien particulier avec ma collègue de cardio-pédiatrie, un bon lien aussi avec la chirurgie cardiaque puisque j'y ai travaillé quelques années, et donc on peut, alors il y a un va-et-vient, quand une maman m'a vu moi en premier, je lui signale les deux autres collègues, toujours, et éventuellement elle va voir ma collègue de cardiopédiatrie, et inversement, quand ma collègue de cardiopédiatrie a vu une maman qui n'a vu personne à la maternité de ma spécificité, hein, qui n'a vu que les médecins, elle dit, mais vous pourriez aussi rencontrer ma collègue de maternité. Et donc, on fait des échanges comme ça. Et il y a un double accueil. C'est-à-dire, cette femme, elle va être accueillie déjà au niveau de la cardiopédiatrie. Il va y avoir un diagnostic anténatal au niveau du cœur de son petit bébé. Et un contact avec ma collègue de cardiopédiatrie. Et une visite éventuellement de la cardiopédiatrie. Et voir où l'enfant va être installé, qui va en prendre soin, qu'est-ce qu'on va lui faire de façon concrète. Et puis elle va revenir éventuellement vers moi si elle ne m'a pas vue avant. Et nous, on va parler de quel type d'accouchement on va avoir, avec qui, comment, qui va transporter le petit bébé en cardiopédiatrie, comment le père va pouvoir accompagner ce bébé, revenir vers sa femme. On monte un espèce de petit scénario de façon qu'elle puisse anticiper ce qui va se passer, parce que sinon, elle avait un scénario d'un accouchement normal. Ce scénario a été cassé et elle tombe dans le vide. Et du coup, elle attend essentiellement une pathologie et essentiellement une opération. Donc il faut redonner à tout ça la dimension d'une naissance. Hein, et donc en rematernalisant un petit peu tout ça, que ça reste dans un registre du maternel. Voilà. Dans une maternité de niveau 3, il y a une partie diagnostic anténatal. Au niveau du diagnostic anténatal, on va voir des patientes qui n'étaient pas suivies à la maternité. Certaines de nos patientes, il se trouve qu'elles étaient suivies à la maternité, parce qu'on est aussi maternité de secteur, et qu'on a détecté quelque chose qui n'allait pas tout à fait bien, et qu'elles passent de la consultation habituelle à une consultation au diagnostic anténatal. Mais sinon, une bonne partie des patientes sont adressées par d'autres maternités qui peuvent être des maternités de la région parisienne, de Paris ou de la région parisienne, comme ça peut être des maternités vraiment de province. C'est-à-dire on a des femmes qui viennent quelquefois de loin. Alors pourquoi elles vont venir quelquefois de loin? Parce que la prise en charge du bébé nécessite quelque chose de très spécialisé qu'elles ne trouveront pas plus près de chez elles. Et donc, du coup, elles peuvent venir par exemple de Limoges. C'est quand même pas tout près. Donc on est amené à rencontrer des femmes qui sont angoissées par ce qu'on va trouver et qui sont aussi déracinées, perdues. Hein. Quelquefois, même comme si elles venaient d'un autre pays, alors qu'elles viennent du même pays, mais en province, mais montées à Paris, montées dans un grand hôpital parisien comme Necker Enfants Malades, c'est tout à fait impressionnant. Alors on peut monter dans l'idée qu'à Necker, ils font des merveilles. Donc forcément, mon bébé, à Necker, on va le sauver, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Et quelquefois, il y aura une certaine déception parce que ça sera si grave qu'on ne pourra pas sauver ce bébé. Hein. Et d'autres fois, on va monter, on va s'apercevoir qu'on peut faire un certain nombre de choses pour ce bébé, mais on va se sentir dans une solitude extrême parce que le mari ou le compagnon ne pourra être là que de temps en temps. Et donc ça va faire des femmes quelquefois très isolées quand elles sont hospitalisées. Quand elles viennent en consultation, en général, elles viennent avec leur mari. Les maris ont beaucoup de place au niveau du diagnostic anténatal. Les couples sont le plus souvent possible vus à deux. On est très attentif à cet aspect-là de la chose. En tant que psychologue, moi je vois les patientes qui me sont adressées. Pendant tout un temps, j'ai été dans la consultation des sages-femmes qui organisaient les interruptions médicales de grossesse. Ça a permis aux sages-femmes de voir comment j'écoutais et comment je m'adressais aux parents. Et maintenant, c'est les sages-femmes qui adressent. Et du coup, elles adressent beaucoup plus. Au départ, quand je ne participais pas à la consultation, elles adressaient peu, comme si elles ne savaient pas comment adresser, parce qu'elles ne savaient pas assez à qui elles adressaient et ce qui allait se passer avec moi. Et maintenant, elles savent beaucoup mieux, et donc elles adressent, mais ça a toujours un côté un petit peu souple, et ça peut effectivement être des entretiens en urgence. On peut être amené à voir dans la foulée d'un entretien médical ou d'un entretien de sage-femme, les parents juste après, donc il faut se libérer, il faut un petit peu jongler avec son emploi du temps. Hein. Donc, voilà. Soit ils ont vraiment fait la demande et on les adresse, soit on les a soutenus à venir vers moi, soit quelquefois on a même un petit peu insisté, on aimerait bien, soit encore maintenant on me fait venir dans la consultation pour me présenter. Voilà, soit on a parlé de moi, la femme n'a pas pu me voir, le couple n'a pas pu me voir, et on dit, mais ce jour-là ils seront hospitalisés et on a organisé que tu viennes les rencontrer. Donc il y a toutes sortes de passerelles. Comme ça. Je rediscute toujours, j'ai toujours fait ça, avec la personne qui m'a adressée. Ça se passe pas forcément par écrit, mais verbalement, je fais un retour. On peut reparler de la façon dont les gens étaient adressés, de la pertinence de l'adresse, de la façon dont elle a été faite, du moment auquel l'adresse a été faite, et de ce qui a pu se dire de plus. Et on soupèse nos appréciations, comment on a ressenti ces parents-là, comment ils font face, sur quoi on pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer, qu'est-ce qui nous a intrigués, parce qu'il y a la sensibilité du médecin ou de la sage-femme, il y a la sensibilité de la psychologue, c'est pas forcément la même sensibilité, c'est intéressant de mettre ça bout à bout, et l'idée est toujours de soutenir l'investissement des parents, c'est-à-dire que les soignants investissent cette situation et investissent ses parents. Si des parents sont difficiles d'accès, il faut espérer que la consultation avec la psychologue va faire qu'on saura les voir mieux et savoir mieux y faire avec eux. Hein? C'est un petit peu ça l'idée. Parce que bon, il y a des gens qui vont ou être très en colère de ce qui leur arrive, ou être très silencieux. Alors, est-ce qu'avec la psychologue, ça se sera un peu calmé? Est-ce qu'on a pu comprendre avec elle qu'est-ce qui se passait? Ou est-ce qu'ils se sont déverrouillés et qu'ils ont pu dire? Hein. Je pense à un couple qui m'a été adressé un peu en urgence comme ça. La sage-femme qui les revoyait et qui était censée organiser l'IMG commence en disant « Alors où vous en êtes de votre décision? Est-ce que vous vous êtes positionné ?» Et là, mouvement de révolte épouvantable de la part de la femme. Et la sage-femme, qui est une sage-femme chevronnée, et était désarçonnée. Et elle a pensé que ça serait bien de proposer un entretien que j'ai dû faire dans la foulée. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien, il s'est dit que cette femme avait perdu sa mère d'un cancer un an au maximum avant, enfin quelques mois, peut-être un an, et qu'il n'y avait pas eu assez de dialogue avec les soignants, notamment les médecins qui soignaient sa mère, que le cancer n'avait pas été dit à cette femme, donc que cette femme n'avait pas dialogué sur sa fin de vie avec ses enfants. Or, cette patiente était infirmière puéricultrice. Donc, elle savait ce qu'il en était pour sa mère, plus que les autres frères et sœurs, ayant une formation au niveau médical. Et elle a été beaucoup plus cabossée que les autres, sachant ce qu'il en était, gardant ce qu'elle savait, et ne dialoguant pas autant qu'elle aurait voulu, et avec sa mère, et avec les médecins, qui avait choisi à tort ou à raison, peut-être à raison d'ailleurs, de ne pas insister sur le diagnostic péjoratif auprès de la mère de cette patiente. Donc il y avait eu un dialogue qui avait été insuffisant, et là ce qu'elle venait dire c'est « et je trouve que dans ma décision, là il faut que je puisse dialoguer plus, on me demande une décision, moi j'ai besoin qu'on m'aide encore à la prendre ». Donc elle venait demander le dialogue qu'elle n'avait pas eu auparavant. Voilà, donc ça c'était intéressant, et c'était intéressant d'en reparler à la sage-femme pour lui dire que c'était une très bonne idée de l'adresser, que les choses s'étaient dites. D'ailleurs, une fois que ça a été dit, elle a beaucoup pleuré cette femme, parce qu'elle a repleuré sa mère. Le deuil était double, le deuil par rapport à ce petit bébé qui était en mauvais état et qui n'allait pas pouvoir vivre, et par derrière, le deuil de sa mère qui avait été si malade. C'était un peu une histoire à tiroir. Et donc là, j'ai pu en reparler avec la sage-femme qui a mieux compris la réaction inhabituelle à une question qu'il posait comme d'habitude, et il n'avait pas le sentiment d'avoir mal travaillé. Voilà, alors, il ne comprenait pas. Devant un traumatisme, on n'est pas tous à égalité. Devant la découverte d'une anomalie, on n'est pas tous à égalité, car ça dépend ce qu'on a vécu avant. Mais on ne peut pas deviner qu'il y a d'autres failles, d'autres blessures antérieures, ce qui fait que les soignants de première ligne vont être complètement déroutés par des réactions qui leur paraîtront disproportionnées ou inappropriées. Et donc c'est très important que quelqu'un avec eux puisse prendre plus de temps, parce qu'avec une psychologue on peut prendre plus de temps, et puisse ouvrir le dialogue sur la totalité de la vie, c'est-à-dire pas seulement cet événement de la vie, mais la totalité de la vie de ce couple-là, voir l'histoire de ce couple-là, voir quelquefois sur plusieurs générations, qu'est-ce qui s'est passé pour la génération d'avant, et est-ce qu'il y a eu une autre personne en mauvais état, à quelque niveau que ce soit au niveau familial. Et souvent derrière un petit enfant qui va mal, on va exhumer d'autres souffrances. Je dis exhumer parce que ça peut être d'autres morts, des fausses couches de la mère, un enfant qui aura été escamoté. Je pense à une patiente qui, au moment de son IMG, a dû rediscuter avec ses parents pour la disparition d'une sœur aînée qui n'avait pas vécu. Et de quoi était morte cette sœur aînée? Elle ne le savait pas bien, et elle avait le sentiment que tout ça n'avait pas été suffisamment dit et que ça la gênait dans son deuil actuel. Donc elle a dû reprendre l'histoire antérieure au niveau familial pour pouvoir vivre le deuil qu'elle était en train de vivre pour son propre enfant. Donc, tu vois, ça, un redoublement. Le temps de la maternité, il est compté, et maintenant il est énormément rythmé par les examens médicaux, il est rythmé par les échographies, il est rythmé par les marqueurs sériques, il est rythmé par un certain nombre d'examens qui sont quelquefois vécus comme des fêtes, parce qu'un certain nombre d'échographies sont vécues comme des rencontres, des rendez-vous d'amour presque, hein, vraiment. Mais ils peuvent être vécus comme on met une suspicion sur cet enfant. Donc l'investissement est fait, et puis il est suspendu, et il est refait, il est suspendu, et ça a quelque chose qui vient... comment dirais-je, chaoter un peu le temps, c'est-à-dire que le temps, au lieu d'être dans une continuité fluide, va être un peu cisaillé par tout ça. Et ça, c'est un petit peu quand même délicat pour les jeunes femmes de maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès médicaux considérables, mais il y a des retombées de ces progrès médicaux sur le vécu de la grossesse, et sur ce qui serait une fluidité d'un temps vécu comme une espèce de rêverie. Car dans la grossesse, il y a un aspect de rêverie, et c'est comme si cette rêverie était quelquefois entaillée, plus ou moins gravement. Hein. Alors si la rêverie est entaillée par des suspicions, et que le vécu antérieur de la femme est lui-même fragile comme un tissu, tu vois, qui peut se déchirer, un tissu un peu élimé. Hein. Je pense à une femme qui a perdu sa mère petite fille et qui, durant sa grossesse, n'est pas accompagnée par une mère puisqu'il n'y en a plus. Hein. Et donc, le maternage s'est arrêté puisqu'elle avait, la maman est morte, elle avait 7 ans. Et quand on vient lui dire que l'enfant ne grossit pas assez bien, eh bien, ça a un retentissement beaucoup plus grand chez elle que chez une autre femme, et effectivement ça a un retentissement aussi sur des repères temporaux, et c'est comme si elle retombait dans un vécu d'enfance où elle a été perdue dans ses repères, puisque la mère n'était plus là, et elle allait grandir comment et pour aboutir à quoi, voilà, quelque chose de sa destinée, de son avenir, de plus grande fille, de jeune fille, de jeune femme, n'était plus soutenue par une figure maternelle. Et donc là, quand dans la grossesse, les personnes de référence qui ont une grande autorité au niveau médical, la sage-femme, les médecins, viennent dire « Oh, il nous inquiète ce bébé », eh bien, comment s'appuyer pour être la mère, sur quoi s'appuyer pour être la mère d'un enfant comme ça, même s'il y a un compagnon? Hein, là, l'étayage d'une psychologue prend valeur d'un étayage maternel. On est comme une figure maternelle sans être là à remplacer une mère, bien évidemment, heureusement. Alors, quelquefois, on peut avoir vraiment le sentiment que le psychisme est à l'arrière-plan par rapport à un vécu catastrophique, hein, voire un événement... un événement médical qui vient surgir là de façon étonnante sans que l'on puisse par ailleurs en faire l'interprétation. Si on venait à en faire l'interprétation, on renforcerait la violence du traumatisme par une interprétation qui serait elle-même traumatique. Donc c'est comme s'il fallait tenir compte d'une part d'inconscient que l'on subodore, l'entendre, hein, mais on en tient compte sans venir à la mettre au jour. Voilà, parce que la mise au jour serait prématurée. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus vite, et à la fois, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça qui est délicat. Il faut écouter vite, être vite dedans, dans l'histoire des gens, mais c'est pas parce qu'on écoute vite et qu'on est vite dedans que on peut se permettre d'aller dire des choses, surtout pas de choses qui paraissent définitives, hein, et qui viennent d'une espèce de verdict ou de jugement, tu sais, comme quand d'oracle, pas de parole comme ça oraculaire. Surtout dans une période de la vie où les paroles vont marquer définitivement. C'est ça qui est très spécifique de ce moment-là de la vie, c'est que l'état de vulnérabilité de la femme fait que beaucoup de choses font empreinte d'une empreinte qui restera, et que donc On dit toujours que c'est des paroles d'annonce d'anomalies qui ne s'oublient jamais, mais je pense qu'il y a beaucoup de paroles qui, durant la grossesse ou au moment de l'accouchement, ne s'oublient jamais. Donc, attention. On est dans un travail durant la grossesse où on interprète très peu, mais en même temps, il y a des réminiscences du passé qui remontent, et la femme va plutôt parler de l'enfant qu'elle a été que de l'enfant qu'elle porte. Par rapport à l'enfant qu'elle porte, comme disait Hélène Deutsch, qui est une des premières psychanalystes à s'occuper de la maternité, elle disait la femme garde son secret. Et le secret, c'est l'enfant. Par contre, sur elle-même, elle va pouvoir dire les choses selon ce que dit Bilovsky, selon une espèce de transparence, c'est-à-dire ça va transparaître. Des choses du passé d'elle-même vont remonter à la surface et transparaître comme si on regardait dans un lac et qu'on voyait au fond du lac parce que l'eau est un petit peu transparente. Donc ça remonte, mais alors ça remonte pas de façon volontaire, ça remonte malgré elle et c'est ça qui est bouleversant pour elle. Et des histoires d'autrefois vont remonter, des conflits vont remonter et en quelque sorte on fait un peu, comme dit Ferenczi, une analyse d'enfant avec un adulte, c'est-à-dire que c'est des vécus d'enfants qui vont remonter et des peines d'enfants qui vont remonter et qui ne sont plus de saison et qui sont tout à fait de saison. Et c'est ça qu'on va écouter. Une femme peut venir à parler de ce qu'il en était de sa propre naissance, pas forcément pendant la grossesse, mais quelquefois dans l'après-coup de son propre accouchement. Une de mes patientes a été angoissée pour l'accouchement pendant toute la grossesse. Elle avait notion que sa naissance n'avait pas été particulièrement facile, mais sans plus. Et dans l'après-coup de son accouchement, elle revient me voir et elle me dit « j'ai parlé un petit peu plus avec ma mère ». Il se trouve qu'elle a été voir son gynécologue et qu'elle lui a dit sa fille venait d'accoucher. Hein. Et donc à son gynécologue, elle parle de l'accouchement de sa fille et elle dit à cet homme ou à cette femme, je ne sais pas, à ce médecin, j'ai énormément souffert, j'ai souffert très longtemps, on m'a dit que c'était normal. Et tout ce qu'elle raconte à ce médecin lui fait penser qu'il y a eu quelque chose qui a été abîmé chez elle physiquement. Et là, il a dû faire une échographie, peut-être une échographie endovaginale, et il a vu un col de l'utérus déchiré sur toute la longueur et avec une cicatrice un petit peu comme ça en relief. Et cette femme vient parler de ce qui était sa naissance et de ce qui était ce qui s'était passé dans le corps de sa mère pour sa naissance et vient pleurer, et on a senti que c'était un dégagement extraordinaire, vient pleurer sur ce que sa mère avait souffert par le fait de la mettre elle-même au monde. Et j'ai eu l'impression que tout ce qu'elle avait essayé de dire pendant la grossesse, sans tout à fait y parvenir, venait comme ça, comme un fruit mûr, dans l'après-coup de son accouchement, elle pouvait dire, eh bien voilà quelque chose que je comprends mieux, et qui était lié au fait que j'avais tant peur d'accoucher, ça trouve son sens. Voilà. Plus un lien à sa mère, et une sollicitude pour sa mère, un peu nouvelle, je dirais, étant devenue mère, une sollicitude de mère pour sa mère, un peu quelque chose comme ça. C'est passionnant pour la psy, c'est bouleversant pour la psy aussi. Je pense que la psychologue maternité, elle est très remuée. Je pense que l'ensemble des soignants est très remué, car on peut toujours s'identifier. On peut toujours s'identifier à un patient. On peut d'autant plus s'identifier quand le patient, en l'occurrence la patiente, est une femme enceinte, parce qu'une femme enceinte, ce n'est pas une malade. C'est quelqu'un comme on a été ou c'est quelqu'un comme on sera. Vous voyez, ça renvoie toujours à la femme enceinte qu'on a été soi. La maternité renvoie toujours à la mère qu'on voudrait être, qu'on a été, qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu. Donc c'est toujours quelque chose qui va mettre en route des identifications massives dont on aura plus ou moins conscience. Alors si on peut en avoir conscience, ça vaut mieux. Si on n'en a pas assez conscience, on va vite projeter des tas de choses sur la femme et être un peu directif et être dans un, dans un mauvais maternage, c'est-à-dire un maternage infantilisant et un maternage autoritaire. Je pense que le maternage non autoritaire et bienveillant peut être très utile, mais on n'a pas toujours affaire à ce type de maternage. Le privilège, quand on est psychologue, c'est faire une rencontre authentique. Je pense que la période de maternité offre une opportunité d'une grande ouverture parce qu'il y a cet état particulier, de vulnérabilité particulière qui fait que la femme va être peut-être plus accessible au dialogue que dans d'autres circonstances de la vie. Donc ça, c'est il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect d'espérance. Il y a beaucoup d'espérance quand on attend un enfant. C'est une phase de la vie où on est dans un grand espoir, et rencontrer les femmes dans un moment où elles sont dans un grand espoir a quelque chose de particulièrement réjouissant et émouvant. Alors si privilège il y a, je pense qu'en tant que psychologue, c'est travailler avec une équipe de grande qualité, et c'est d'être fière de travailler avec cette équipe-là. Alors ça, c'est pas forcément seulement en maternité. Le privilège, ça peut être d'avoir fait une analyse. Quand on a eu la chance de découvrir la psychanalyse, de faire une psychanalyse, on est dans un rapport aux autres plus profond, et c'est tout à fait enrichissant, tout particulièrement pour travailler en maternité, puisqu'il y a toujours cette dimension de l'intergénérationnel qui est très, très opérant dans ce lieu-là avec les patients.